Les hommages absolus. Lorsque je songe au philosophe allemand le plus lu, au musicien allemand que l'on écoute le plus, à l'homme d'État allemand le plus considérable, il faut que je m'avoue à moi-même, si l'on rend maintenant la vie très dure aux Allemands, ce peuple des sentiments absolus, cela tient à leurs propres grands hommes. Il y a là trois fois un magnifique spectacle à contempler. C'est chaque fois un fleuve, si puissamment agité dans le lit qu'il s'est creusé lui-même, que l'on pourrait croire souvent qu'il veut monter la montagne. Et pourtant, quel que soit le degré où l'on pousse son admiration, qui n'aimerait pas être, somme toute, d'une autre opinion que Schopenhauer? Et qui aimerait partager maintenant, dans les grandes et dans les petites choses, les opinions de Richard Wagner? Quelle que soit la vérité de la réflexion que fit un jour quelqu'un, lorsqu'il prétendit que partout où Wagner donne et prend une impulsion, il y a un problème de cachet. Il suffit, car il ne le tire pas à la lumière. Et enfin, combien y en aurait-il qui aimerait de tout cœur être d'accord avec Bismarck, à condition qu'il fût d'accord avec lui-même ou qu'il prît du moins des airs de l'être dorénavant? Il est vrai que d'être sans principe, mais d'avoir des instincts dominants, esprit mobile au service de violents instincts dominants et pour cela sans principe, cela ne devrait pas être, chez un homme d'État, quelque chose de surprenant, mais être plutôt considéré comme juste et conforme à la nature. Hélas, ce fut jusqu'à présent si peu allemand. De même que le bruit autour de la musique, la dissonance et la mauvaise humeur à cause du musicien. De même que la position nouvelle et extraordinaire que choisit Schopenhauer. Il ne se sentit ni au-dessus des choses, ni à genoux devant elles. Dans les deux cas, cela eut encore été allemand. Mais il agit contre les choses. Incroyable et désagréable. Se placer sur le même rang que les choses et être quand même leur adversaire. Et, en fin de compte, l'adversaire de soi-même. Que doit faire l'admirateur absolu avec un pareil modèle? Et que doit-il faire encore de trois de ces modèles qui n'ont même pas le désir d'être en paix entre eux? Voici Schopenhauer, adversaire de la musique de Wagner, et Wagner, adversaire de la politique de Bismarck, et Bismarck, adversaire de tout wagnerisme, de tout schopenhauerisme. Que reste-t-il à faire? Ou faut-il se réfugier avec sa soif de vénération en bloc? Pourrait-on peut-être choisir, dans la musique du musicien, quelques centaines de bonnes mesures qui vous tiennent à cœur et que l'on aime à prendre à cœur parce qu'elles ont un cœur? Pourrait-on se mettre à l'écart avec ce petit butin et oublier tout le reste? Et rechercher pareille combinaison par rapport au philosophe et à l'homme d'État? Choisir, prendre à cœur et surtout oublier le reste? Hélas, s'il n'était pas si difficile d'oublier. Il y avait une fois un homme très fier qui, à aucun prix, ne voulait rien accepter que de lui-même en bien et en mal. Mais lorsqu'il eut besoin de l'oubli, il ne put se le donner et il fut forcé de conjurer les esprits trois fois. Ils vinrent, ils entendirent son désir et ils finirent par dire « Cela seul n'est pas en notre pouvoir. » Les Allemands ne devraient-ils pas profiter de l'expérience de Manfred? Pourquoi d'abord conjurer les esprits? Cela ne sert de rien, on n'oublie pas lorsque l'on veut oublier. Et combien grand serait le reste qu'il faudrait oublier chez ces trois grands hommes de l'époque pour pouvoir être dorénavant leur admirateur en bloc? Il serait donc préférable de profiter de la bonne occasion pour essayer quelque chose de nouveau. Je veux dire, progresser dans la probité vis-à-vis de soi-même et devenir, au lieu d'un peuple qui répète d'une façon crédule et qui est méchamment et aveuglement, un peuple d'approbation conditionnelle et d'opposition bienveillante, mais apprendre avant tout que les hommages absolus devant les personnes sont quelque chose de ridicule, que changer son avis là-dessus ne serait pas déshonorant, même pour les Allemands, et qu'il existe un mot profond, digne d'être pris à cœur, ce qui importe, ce ne sont point les personnes mais les choses. Ce mot est comme celui qu'il a prononcé, grand, brave, simple et silencieux, tout comme Carnot, le soldat et le républicain. Mais peut-on parler maintenant ainsi d'un Français à des Allemands et de plus d'un républicain? Peut-être point. Et peut-être n'a-t-on même pas le droit de rappeler ce que Niebuhr put dire jadis aux Allemands, que personne autant que Carnot ne lui avait fait l'impression de la véritable grandeur. Un modèle. Qu'est-ce que j'aime en Thucydide? Qu'est-ce qui fait que je l'estime plus que Platon? Il a le plaisir le plus étendu et le plus désintéressé à tout ce qui est typique chez l'homme et dans les événements. Et il trouve qu'à chaque type appartient une quantité de bon sens. C'est ce bon sens qu'il cherche à découvrir. Il possède une plus grande justice pratique que Platon. Il ne calomnie et ne rapetisse pas les hommes qui ne lui plaisent pas ou bien qui lui ont fait mal dans la vie. Au contraire, il ajoute et introduit quelque chose de grand dans toutes les choses et toutes les personnes en ne voyant partout que des types. Que ferait aussi toute la postérité à quoi il voue son œuvre avec ce qui n'est pas typique? C'est ainsi que cette culture de la connaissance désintéressée du monde arrive en lui, le penseur homme, à une floraison merveilleuse. Cette culture qui a son poète en Sophocle, son homme d'État en Périclès, son médecin en Hippocrate, son savant naturaliste en Démocrite. Cette culture qui mérite d'être baptisée du nom de ses maîtres, les sophistes, et qui malheureusement, dès le moment de son baptême, commence à devenir soudain pâle et insaisissable pour nous. Car dès lors, nous soupçonnons que cette culture qui fut combattue par Platon et par toutes les écoles socratiques devrait être bien immorale. La vérité est ici si compliquée et si enchevêtrée que l'on répugne à la démêler. Que la vieille erreur, error veritate simplicior, suive donc son vieux chemin. Le génie grec nous est très étranger. Oriental ou moderne, asiatique ou européen, comparé au grec, toute chose possède en propre l'énormité et la jouissance des grandes masses comme langage du sublime. Tandis qu'à Paestum, à Pompéi et à Athènes, on s'étonne devant toute l'architecture grecque de voir avec quelle petite masse les Grecs savaient exprimer quelque chose de sublime et aimer à l'exprimer ainsi. De même, combien en Grèce les hommes étaient simples dans l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Combien nous les dépassons dans la connaissance des hommes. Combien pleines de labyrinthes aussi apparaissent nos âmes et nos représentations de l'âme en comparaison des leurs. Si nous voulions tenter une architecture d'après le mode de notre âme, nous sommes trop lâches pour cela. Les labyrinthes devraient être notre prototype. La musique qui nous est propre et qui nous exprime véritablement laisse deviner le labyrinthe. Car en musique, les hommes se laissent aller parce qu'ils se figurent qu'il n'y a personne qui soit capable de les voir même sous leur musique. Autre perspective du sentiment. Que signifie notre bavardage à propos des Grecs? Qu'entendons-nous donc à leur art, dont l'âme est la passion pour la beauté masculine nue? Ce n'est qu'en partant de là qu'ils avaient le sentiment de la beauté féminine. Ils avaient donc pour celle-ci une toute autre perspective que nous. Il en était de même de leur amour de la femme. Ils vénéraient autrement, ils méprisaient autrement. L'alimentation de l'homme moderne. L'homme moderne s'entend à digérer beaucoup de choses et même à digérer presque tout. C'est là sa vanité à lui. Mais il serait d'une espèce supérieure justement s'il ne s'entendait pas à cela. Homo pomphagus, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fin. Nous vivons entre un passé qui avait un goût plus maniaque et plus entêté que nous et un avenir qui en aura peut-être un plus choisi. Nous vivons trop au milieu.